Chapitre 15. Francesca Beckmann est l'une des psychologues du centre de crise et de traumatologie. Elle est en charge de l'évaluation qui déterminera si Saga peut reprendre ses fonctions dans la police. Il y a 3 ans, la chasse à l'homme qu'a menée Saga contre Jurek Walter s'est retournée contre elle. Après la mort de sa demi-sœur, Pelerina, suite à un séjour prolongé dans un cercueil, son monde s'était écroulé. La CEPO lui a offert un séjour thérapeutique de 2 ans dans un service d'aide psychologique spécialisé à AIDE. Après ça, elle est rentrée à Stockholm suffisamment forte pour penser à autre chose qu'au suicide. La lumière de l'après-midi s'immisce à travers le feuillage d'une branche qui se balance devant la fenêtre et répand une lumière douce dans le cabinet. Saga a l'impression que la pièce entière tourne autour d'elle. Elle se sent comme un ballon qui dévale la pente d'une colline. Assise sur le rebord d'un fauteuil bleu clair, elle hoche faiblement la tête et croise le regard de Francesca. Plutôt que des portraits de famille ou des dessins d'enfants, une grande photo encadrée représentant une forêt est accrochée derrière le bureau. Le regard de Saga quitte un instant la psychologue et croise une clairière aux lumières diffuses dans laquelle un ruisseau serpente entre des rochers couverts de mousse. « Je constate vos progrès. Vous arrivez ici à l'heure. Vous avez trouvé un emploi que vous avez su parfaitement gérer. Et vous vous occupez de 2 enfants atteints de trisomie. C'est pour toutes ces raisons que j'ai approuvé votre intégration à la NOA pour un poste administratif. » Le visage de Francesca est beau, en dépit des innombrables petites cicatrices qui le couvrent depuis ses oreilles jusqu'à la racine de ses cheveux. Elle a 50 ans, et elle est si grande qu'elle doit allonger ses jambes sous son bureau pour ne pas heurter la table avec ses genoux. « Mais moi, je suis une femme de terrain. C'est ça, mon truc. Le terrain. J'ai essayé d'être claire là-dessus. Je sais. » répond la psychologue en enlevant ses lunettes. « C'est important pour moi. » poursuit Saga en faisant sautiller sa jambe. « Je dois prouver que je suis capable de faire de l'opérationnel, et je sais que je le suis. »« J'entends ce que vous dites. Et ils ont besoin de moi, Alainoa. Ça peut paraître exagéré, mais Saga, je pense que c'est trop tôt. » L'interrompt doucement la psychologue. « Vous avez fait des progrès, mais vous ne savez rien de moi !» crie Saga d'une voix stridente en se levant brusquement de sa chaise de sorte que celle-ci heurte le mur derrière elle. « Vous ne savez rien du travail de la police, de ce que nous vivons, de ce que ça exige de nous. » « Expliquez-moi. » répond Francesca patiemment. « Excusez-moi. » marmonne Saga en se rasseyant. « J'ai juste été déçu. Je pensais que vous seriez heureuse que je valide cette réintégration au sein de la police. Je le suis. Mais je ne suis pas faite pour être assise dans un bureau. Je... » Saga se tait et serre ses mains pour les maintenir immobiles. « Donc, vous n'avez pas apprécié votre travail aujourd'hui à la NOA ? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Je sais que j'ai été utile, que j'ai contribué à... Je veux simplement dire que je peux être beaucoup plus efficace si j'accompagne Juna sur le terrain. » Elle se tait. Son regard se promène sur les rayons de soleil qui tremblent sur le mur sous la fenêtre. « Avez-vous revu Randy ?» demande Francesca. « Oui, enfin revu. Il est passé dans la salle de réunion pour déposer un rapport aujourd'hui. » « Ça vous a fait quoi de le revoir ?»« C'était ok. Je veux dire... »« Oui, c'était cool. » Francesca chausse de nouveau ses lunettes et parcourt son carnet de notes. « Vous avez dit que vous aviez rompu avec lui pour vous punir. » Saga reprend son souffle et se tourne de nouveau vers elle. « Aujourd'hui, je ne ressens plus ça. Mais... au début, je ne me supportais plus. Je vous l'ai déjà dit. Je ne pensais pas être digne de recevoir de l'amour. Je ne pensais même pas avoir le droit de vivre. Mais maintenant, vous avez une nouvelle relation. Stéphane. Oui, répond Saga. Vous voulez m'en parler ? Demande la psychologue après un silence. Je ne sais pas. C'est un peu tôt. Je n'ai aucune idée d'où ça va me mener. Je veux pas forcer les choses. On a chacun notre vie, mais on se voit régulièrement et pour l'instant ça me suffit. Pensez-vous que vous méritez son amour ? Saga gare sa moto sur le trottoir devant le pignon gris de l'immeuble, tape le digicode et emprunte l'escalier jusqu'au deuxième étage. Elle frappe un léger coup à la porte avant de l'ouvrir, puis la referme doucement derrière elle. Elle enlève ses bottes et accroche sa veste à la patère dans l'entrée. Lorsqu'elle entre, Stéphane ne lève pas les yeux de son ordinateur posé sur la table de la cuisine. Il est sur un forum en train de donner 5 étoiles à Yemoja Massage et d'écrire un commentaire sur une des travailleuses du sexe. Saga attend quelques secondes. Puis va dans la salle de bain, se déshabille et fait couler l'eau de la douche. L'angoisse lui serre l'estomac, comme à chaque fois qu'elle entre dans cet appartement. Stéphane Broman est anesthésiste. Il habite une villa à Djursholm avec sa femme Jessica et leurs deux enfants, Nils et Lennart. Mais il dispose d'un petit appartement dans la Blomgatan, à Solna, à quelques minutes à vélo de son lieu de travail, à l'hôpital Karolinska. Saga se rince soigneusement afin d'ôter tout le savon de son corps, car Stéphane est sensible au moindre soupçon de parfum. Elle se sèche, pend la serviette, quitte la salle de bain et va s'asseoir sur le fauteuil de la chambre. Bien que les stores soient tirés, une lumière sale tombe sur le lino et les meubles ternes. Apparemment, l'homme de ménage est passé aujourd'hui, le lit est fait, et une frange de la serpillière est restée coincée dans la plinthe sous le radiateur. Saga est frigorifiée quand, une heure plus tard, Stéphane entre enfin dans la chambre et retire la couverture duveteuse du lit. « Allonge-toi ou rentre chez toi. » dit-il. « Je ne veux pas rentrer chez moi. » répond-elle avant d'aller s'étendre sur le lit. Parfois, elle essaie de se dire que tout ce qu'elle veut, c'est une relation sexuelle classique, que c'est tout ce qu'elle peut supporter pour le moment, que c'est comme ça qu'elle veut vivre. Il lui écarte les cuisses et s'allonge sur elle. Stéphane n'aime pas qu'elle mouille. Ce n'est arrivé que les rares fois où il lui a montré de l'affection. À chaque fois, il s'est aussitôt levé, a rassemblé ses vêtements et les a balancés dans la cage d'escalier avant de la virer de l'appartement. Elle s'en fout. Ça n'a aucune importance. Elle ne peut pas le perdre, c'est tout. Dès qu'elle sent qu'elle pourrait souffrir, elle se mord la langue. Elle fixe le plafonnier pour éviter de croiser son regard, suit des yeux un minuscule filet de poussière qui se balance au-dessus d'elle. Stéphane la pénètre avec agressivité, lui balance des injures si elle ne reste pas parfaitement immobile, et lui murmure qu'il la prêtera à tous ses amis. Au bout d'un moment, il l'étrangle d'une main et accentue la pression sur sa gorge au fur et à mesure que les mouvements de son bassin s'accélèrent. Elle le laisse faire, inerte. Finalement, elle se met à cligner des yeux par manque d'oxygène. Tout ce qu'elle entend, c'est le grincement du lit et son expiration bruyante quand il éjacule enfin et se retire. Elle se tourne sur le côté, tousse dans le creux de son bras et respire aussi silencieusement que possible. Stéphane est allongé sur le dos, haletant, les oreilles et le torse rouges. Il ne le sait pas. Mais elle est liée à lui parce qu'il faisait partie de l'équipe de l'hôpital Karolinska le jour où sa vie a été brisée. Il était l'anesthésiste de sa sœur. Le jour où elle a trouvé son profil sur Tinder et regardé sa photo, la première chose qu'elle a faite, c'est d'aller vomir dans les toilettes. Coucher avec lui est sa façon de maintenir le lien avec le chagrin. C'est mieux que le néant. J'ai commencé à travailler à la NOA. Dit-elle. Pour quel salaire ? Je ne sais pas, je veux juste intelligent, soupire-t-il. Tu veux que je commande à manger ? propose-t-elle en se levant. Pas le temps. Je vais essayer de dormir un peu avant l'entraînement. Je croyais que personne t'a demandé de venir. L'interrompt-il. Te fâche pas parce que j'ai demandé. Je veux pas manger avec toi. Je suis pas ton petit ami. Je sais. Mais j'ai besoin de toi. Il lui tend 1,5 mg de Norvelo pour éviter une éventuelle grossesse. Et la regarde avaler la pilule. Quand Stéphane est ivre, il se lance dans des diatribes contre les femmes qui se croient irrésistibles ou qui ont une carrière. Il crache son mépris pour celles qui font des césariennes et espère qu'elles garderont d'horribles cicatrices sur le ventre. Saga s'habille sans se laver parce qu'il exige qu'elle ait du sperme entre les jambes quand elle monte sur sa moto. Il aime l'idée que ça puisse lui couler le long des cuisses quand elle a une réunion importante au travail. Dès qu'elle arrive dans la cage d'escalier, elle sort un mouchoir en papier de son sac, s'essuie soigneusement le sexe et le jette dans la poubelle devant l'immeuble. Les larmes ne commencent à couler que lorsqu'elle est installée sur sa moto. Le chagrin jaillit et lui obstrue la gorge jusqu'à l'empêcher de respirer. Sur le trajet du retour, elle pense à Yurek qui dirige toujours sa vie. Si elle n'est plus policière, si elle ne supporte plus l'amour, c'est à cause de lui. Elle ferait tout pour revenir en arrière et avoir une nouvelle chance de le tuer. C'est elle qui aurait dû s'en charger. Saga passe devant l'Institut Karolinska, voit apparaître devant elle les grandes tours de Noratonen, puis tourne à droite vers Essingeleden. Qui était réellement Yurek Falter? Comment sa radioactivité a-t-elle pu la contaminer à ce point? Une fois que cet homme s'est introduit dans votre cerveau, on ne s'en débarrasse plus jamais. Elle le voit parfois dans les yeux de Juna. Lui non plus n'est pas libre. Il en est peut-être de même pour le prédateur, pense-t-elle soudain. Il s'est perdu dans le labyrinthe créé par Yurek. Il a regardé trop profondément dans ses yeux. Elle roule sur le pont Westerbronn. La lumière dorée de la fin de journée scintille dans l'eau qui ondule en contrebas. Cette pensée la fait frissonner. Le prédateur est prisonnier du labyrinthe de Yurek. Mais presque tous ceux qui l'ont rencontré sont morts. Alors qui peut-il bien être? Les rayons du soleil embrasent la cime des arbres de Longholmen. Est-il une victime de Yurek? L'un de ceux qu'il a essayé de recruter, échappé d'un des nombreux hameçons de sa palangre.